Une semaine en Méditerranée, une semaine en images. Chaque année depuis 4 ans, le prix MED, prix du documentaire et du reportage en Méditerranée, pose ses valises à Marseille. Une semaine entre la chaleur estivale des pavés et la fraîcheur subliminale des salles obscures. L'odeur de neuf s'échappe des auditoriums de la Villa Méditerranée et du Mucem. Pas de doute, nous sommes au cœur des nouvelles infrastructures de la capitale européenne de la culture. 31 films pour un panorama du bassin méditerranéen à travers l'œil de journalistes, de chercheurs, de spécialistes. Un moyen de faire des rencontres, de découvrir des théâtres de guerre, de découvrir l'amour. De l'amour, Boschko et Admira en avaient, jusqu'à en mourir. C'est cette histoire des amants de Sarajevo que Frédéric Tonoli et Arnaud Hamelin ont voulu raconter dans leur documentaire qui n'aurait pu s'appeler autrement que Sarajevo mon amour.
J'étais à Sarajevo, j'ai passé 3 mois durant le siège de Sarajevo en 1994. J'ai passé l'hiver à Sarajevo, les trois mois d'hiver. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. On ne peut pas oublier qu'on a vécu 3 mois à Sarajevo, on ne peut pas oublier. Et c'est une rencontre de circonstances. C'est un producteur avec qui je travaille régulièrement, Arnaud Hamelin de Sunset Press, qui avait ce désir de faire un film sur ce couple formidable et malheureux qui est devenu très célèbre, Boschko et Admira, qu'on a appelé par la suite les amants de Sarajevo, Roméo et Juliette, qui voulaient faire un film sur eux, et il m'en a parlé. Moi, j'avais quitté Sarajevo, la guerre n'était pas finie, j'avais quitté avec beaucoup de tristesse, j'avais l'impression de quitter le navire. Quand il m'a proposé de faire ce film, je pouvais dire que oui. Donc c'était assez étrange pour moi, c'était de retourner, j'étais pas retourné à Sarajevo depuis 95, donc je suis retourné en 2012, et ça m'a bouleversé.
Votre documentaire s'appelle Sarajevo, mon amour, donc comme le film de Jasmila Zbanich, est-ce que c'est un choix ?
Non, c'est pas un choix du tout, peut-être que, non, fait attention, on l'aurait pas appelé comme ça, mais on cherchait parce que, en fait, mon producteur, Arnaud Hamelin, avait l'idée de faire une histoire d'amour dans plusieurs villes qui ont connu ou des guerres ou des situations dramatiques. Là, je viens de finir Berlin, mon amour, qui est une histoire d'amour. Dans une ville en guerre, c'était la guerre froide. Donc, c'est tout naturellement qu'on appelle Sarajevo, mon amour, comme peut-être on fera un jour Soweto, mon amour, ou Jérusalem, mon amour.
L'appartement de Boschko est détruit par un tir d'obus. Rada, la mère, Boschko, son fils et Admira doivent déménager. Mais dans ce nouveau Sarajevo, qui peut encore accueillir un Serbe et son fils ? La guerre a fait naître la haine.
La guerre n'a rien changé à leur amour. Et n'a rien changé pour nous non plus. Boschko était devenu un membre de la famille. Il n'avait plus de père. Et mon mari était devenu son ami. Ce qui a changé, c'est qu'on s'est fait du souci pour lui. Bien sûr, ça n'était pas évident pour lui d'être serbe à Sarajevo pendant la guerre.
Comment vous y êtes pris pour retrouver tous les proches de Boschko et Admira ? Ça a été compliqué ou vous aviez déjà des contacts sur place ?
J'avais des contacts sur place. Ça, c'est mon travail de documentariste ou journaliste. Donc, ils étaient identifiés. Il y avait eu un film fait par les Américains quelques années avant. Les Américains font toujours avant les autres, hein. Enfin, très souvent. Ils avaient répertorié une grande partie des personnages, des acteurs, des témoins de l'histoire, des gens de la famille, les amis. Donc moi, il a fallu que je les retrouve, que je retrouve où ils habitent, où ils étaient. Ça a été un long travail. Et le travail le plus difficile a été de les convaincre de parler. Parce que 17 ans après, les gens n'avaient plus envie de parler. Autant après, à la fin du conflit, les gens avaient un besoin de parler. Là, ils ne voulaient plus parler. Et les parents d'Admira, j'ai réussi à les convaincre, mais par exemple, le papa m'a donné quelques heures. La maman, je ne l'ai vue que 2 fois. Parce que c'était une histoire qui était tellement douloureuse pour eux, ils ne voulaient pas la rouvrir. Après, les amis d'Admira Boschko, c'était à peine plus facile. Et du côté serbe, c'était assez difficile parce que c'est une histoire terrible, donc honteuse. Et c'est une histoire de guerre, donc les gens ont du mal à en parler. Et en plus, c'est une histoire qui, au jour d'aujourd'hui encore, est très floue. On ne sait toujours pas qui a tiré.
Ce couple, ça représente quoi pour vous ?
La jeunesse et l'amour. Moi, quand j'avais été, j'ai 54 ans aujourd'hui, donc il y a 17 ans, j'étais bien plus jeune. J'ai croisé des jeunes comme eux. À Sarajevo, j'avais des amis, parce que je suis resté 3 mois de suite. Il y avait un couvre-feu le soir, mais on s'appelait toujours pour sortir ou se retrouver chez quelqu'un. Il y avait une vie amicale, une vie amoureuse, malgré la situation tragique, malgré la guerre. Donc, moi, de penser à eux, je pourrais pleurer, mais je pourrais en même temps sourire. Parce que c'est une belle histoire, c'était deux belles personnes. Hein.
De belles histoires, il y en a eu sur les écrans du Primed pendant cette semaine. Celle de Mohamed Moulay Sehoul, mieux connu sous le nom de Yasmina Kadra, avait commencé dans les rangs de l'armée algérienne. Puis l'homme de plume prit le dessus sur le commandant, voyant ses livres vendus à des milliers d'exemplaires dans le monde entier. Pour Régine Abadia, la réalisatrice de Yasmina et Mohamed, le choix de ce documentaire ne s'est pas fait au hasard.
J'aime beaucoup cet écrivain, ça a été la première raison. Ensuite, j'ai vraiment eu envie de faire un film sur lui. Et en même temps, j'avais aussi envie de parler de l'Algérie. Et donc, du coup, je me suis occupée de tous ces romans qui traitent de l'Algérie, de toute sa période algérienne. Et en fait, j'ai un peu fait un film sur l'Algérie au travers de l'œuvre de Yasmina Kadra. J'avais vraiment envie de parler de ce pays, peut-être parce que j'y suis née. Voilà, et puis que du coup, j'avais aussi envie d'en parler d'une manière... original, donc par l'intermédiaire de l'œuvre de Kadra. Et ça me permettait vraiment, enfin, ces romans m'ont vraiment permis de parler de toutes les époques, depuis la colonisation jusqu'à la période d'aujourd'hui, en fait. Puisqu'il lui-même, lui, a écrit des livres qui se passent à toutes ces époques. Depuis la colonisation, pendant la guerre d'indépendance, les années noires des années 90, et puis la période d'aujourd'hui. Donc, je pouvais faire comme ça un tour d'horizon de toute l'Algérie, tout en racontant sa vie qui est complètement incroyable. Hein, sa vie est en premier plan. La vie de cet homme qui a été un petit garçon qu'on a obligé à être... À avoir une carrière militaire finalement, puisqu'on l'a placé dans une école militaire à l'âge de 9 ans. Donc sa vie est déjà incroyable.
Mon histoire aussi a commencé avec l'attaque d'une caravane comme ça. C'était une caravane qui venait de Tombouctou et qui était destinée à l'empereur du Maroc. Et cette caravane a été attaquée par les Oulédjirir. Et dans cette caravane, il y avait trois dames qui étaient destinées à l'empereur. Et c'était des dames maliennes, à l'époque soudanaise, de la grande noblesse. L'empereur du Maroc avait chargé mon grand-père pour négocier la libération de ces trois dames. Et l'empereur a dit qu'ils prennent ce qu'ils veulent, les chameaux, tout, mais qu'ils me restituent les trois dames. Et quand mon grand-père a réussi quand même à négocier la libération de toute la caravane, ben il est tombé amoureux de ma grand-mère. Et il a demandé l'autorisation à l'empereur de l'épouser, autorisation qui lui a été accordée. Et ça a donné mon père qui lui a donné le bonhomme que je suis, trop bronzé. Je suis fier de ce bronzage parce que je suis aussi l'histoire de toute une région. J'ai la chance d'être berbère, d'être arabe, d'être africain. Et aujourd'hui, je suis un citoyen du monde et c'est merveilleux.
Vous lui avez proposé de faire ce documentaire. Comment il a reçu cette idée ?
Ça s'est très bien passé. Moi, donc, je suis allée le voir pour lui proposer de faire un film sur lui. On a très vite accroché et il m'a fait confiance et ça a bien fonctionné.
Et est-ce qu'il n'est pas lassé par le fait qu'à chaque fois, enfin pas à chaque fois qu'on parle de lui, mais on parle de l'écrivain, mais aussi de justement son passé militaire.
Ah bah oui, ça c'est sûr, parce que il revendique aujourd'hui son statut d'écrivain. Il est écrivain, il écrit des livres qui sont des livres toujours très très forts. Voilà, et c'est vrai que par rapport aux médias, quand il est interviewé pour parler de son dernier livre et qu'on lui dit alors vous étiez aussi commandant. Mohamed Moulay Sehoul, voilà, ça l'agace un peu, oui, ça l'agace un peu.
Et donc vous avez rencontré sa femme aussi. Quand j'ai vu le reportage, je l'ai trouvée très touchante. Quel lien vous avez créé, comment ça s'est passé avec elle?
Sa femme est complètement charmante, c'est une femme vraiment superbe et ils forment tous les deux un très très beau couple. Ce nom d'emprunt, c'est les deux prénoms de sa femme et c'était, je pense, un peu aussi pour lui rendre hommage. Et puis il a toujours dit qu'il avait une immense admiration pour sa femme et c'est quelqu'un de très touchant, c'est vrai.
يا تزاير زينك
Pourquoi avoir envoyé votre documentaire au Primed ?
Oh bah vous savez, quand, je vais vous dire, quand on fait un film, un documentaire, les festivals et toutes ces manifestations, c'est capital, quoi, parce qu'on y passe un temps fou, on fait des films, bon, celui-là était financé par Arte, mais dans une, enfin, il a été diffusé sur Arte, mais dans une version beaucoup plus courte de 43 minutes, et un passage à la télé, c'est excessivement frustrant, même s'il y a beaucoup de spectateurs, mais c'est quand même très frustrant. Et les festivals, mais pour nous, réalisateurs, c'est capital, vraiment capital, parce que c'est une autre diffusion, c'est l'occasion de rencontrer des gens, et puis être sélectionné au Primed, pour moi, c'est vraiment un honneur, quoi. Je suis vraiment très très contente.
L'Algérie était très présente lors de cette 17e édition du Primed, une guerre d'indépendance douloureuse qui ne cesse d'inspirer les réalisateurs, à l'image des documentaires tels que Troufion ou encore Algérie, la déchirure. Malik Aïtaoudia, journaliste franco-algérien, en collaboration avec Séverine Labatte, chercheur au CNRS, s'est intéressé à un autre événement traumatisant de l'histoire d'Algérie, l'assassinat des 7 moines de Tibérine.
C'est une espèce de dette morale que j'avais le sentiment d'avoir vis-à-vis de ces moines qui, dans la situation tragique que traversait le pays, avaient la possibilité de quitter l'Algérie et de se mettre à l'abri. Personne n'aurait dit pourquoi vous êtes parti. Et ils ont choisi de traverser la nuit algérienne avec les Algériens, avec leurs compatriotes. Donc au moment de leur assassinat, j'ai, comme l'immense majorité des Algériens, senti une espèce de honte. C'est-à-dire que ce crime horrible s'était déroulé chez nous, dans notre pays. Et je me suis dit qu'il faudrait trouver un moyen de rendre hommage à ces moines. Donc j'ai commencé de mon côté à chercher, Séverine elle-même cherchait de son côté. Et puis un jour, on a été amené à travailler ensemble et on s'est mis à chercher ensemble. Ça a été très long parce que à l'époque, certains des acteurs que vous avez pu voir dans le documentaire étaient encore au maquis, étaient encore terroristes en activité, ou alors étaient en prison, ou alors on n'avait pas encore réussi à les identifier. Donc c'était compliqué d'entrer en contact avec eux. Donc on s'est dit, ça prendra le temps qu'il faudra, mais on fera ce documentaire sur la véritable histoire de l'enlèvement, de l'assassinat des moines de Tibérine.
Et quel était l'objectif premier lors de la réalisation du reportage ?
Véritablement, l'objectif, c'était de raconter ce que les moines avaient vécu. Alors, je sais que maintenant, il y a des polémiques sur qui a tué, qui est responsable. Mais vraiment, c'était alors vraiment des années-lumière de nos préoccupations, aussi bien Séverine qu'à moi-même. Ce qui nous intéressait, ce qui nous a motivés dès le départ, c'était de retrouver les témoins, les acteurs directs de cette tragédie. Donc nous, on voulait être uniquement avec des témoins. Et ça prend du temps. Parce que on a estimé avec Séverine que plus on serait proche de la vérité, plus cette histoire serait belle. Et je pense que c'est une très belle histoire, ce qu'ils ont... Enfin, tragique, mais c'est une très belle histoire. Ils sont morts d'avoir aimé les Algériens, comme un des religieux qui vivait à Tibérine à l'époque l'a dit. Ils voulaient rester avec leurs voisins parce qu'ils ne se sentaient pas la possibilité ensuite de pouvoir les regarder les yeux dans les yeux en leur disant que quand c'était dangereux, on est parti se mettre à l'abri.
7 moines avaient choisi de rester avec leurs voisins et amis musulmans, au cœur d'une région déchirée par la guerre civile. Au monastère, dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, il y a 8 moines de la communauté de Tibérine, Bruno Le Marchand du monastère de Fès, au Maroc, et 15 invités chrétiens. Vers 23 heures, tout le monde dort. Un homme frappe à la porte.
Ma femme a entendu taper à la porte et m'a réveillé. L'homme m'a dit, Mohamed, ouvre la porte, je te vois. Je lui ai répondu, qu'est-ce que tu cherches ? Il m'a dit, on a un blessé, on veut voir le médecin. Je lui ai répondu, excuse-moi, mais moi, je ne t'ouvrirai pas.
Immédiatement, Mohamed Ben Ali sort de chez lui par la cour intérieure pour aller prévenir Christian de Chergé, le prieur. Avant d'arriver au portail, il découvre que des hommes cagoulés ont déjà pénétré dans le monastère. Ils sont armés.
Vous avez balayé une période assez large finalement ? Puisqu'on ne parle pas que de l'assassinat des moines, on parle directement de l'origine du GIA. C'était vraiment une volonté ?
Pour qu'on puisse comprendre cette histoire, il fallait qu'on puisse la remettre dans son contexte. Parce que c'est un des problèmes quand on raconte l'histoire des moines ou d'autres épisodes de cette guerre civile, c'est que ces histoires sont racontées à des gens qui n'ont pas vécu ça, qui ne savent pas ce qu'est le terrorisme tel qu'il a été pratiqué et vécu en Algérie. Je sais qu'il y a des images qui peuvent choquer dans le documentaire, notamment celle d'un massacre où on voit des enfants égorgés, sauvagement mutilés. On a réfléchi, est-ce qu'on met ces images, est-ce qu'on les met pas, pas par souci de voyeurisme, mais c'est, je pense que, surtout quand on voit la fin, comment ils ont été tués, pour des gens qui ont été capables de tuer des enfants, comme ils ont tué des enfants, vous savez, cette moine, c'est peut-être la chose la moins difficile à faire pour des chrétiens, a fortiori, pour eux, c'est même gratifiant de pouvoir le faire. Et si vous n'avez pas replacé le contexte dans lequel tout ça s'est produit, c'est impossible, je pense, à comprendre.
Est-ce qu'il y a des moments où vous avez littéralement baissé les bras pendant l'enquête ?
Jamais. Jamais. D'abord, on est deux à faire Center 4. On était deux, donc si l'un d'entre nous avait été tenté de baisser les bras, l'autre l'aurait... parler vulgairement, hein, lui aurait mis un coup de pied au derrière pour lui dire « Allez, bouge-toi et continue. » Mais ça ne s'est pas présenté. Parce que c'était vraiment une quête de vérité. Vous faites ce métier, donc il n'y a rien de plus passionnant.
Une enquête de plus de 10 ans qui a valu au martyr des 7 moines de Tibirine le premier prix de la catégorie reportage. Pourtant, Five Broken Camera de Emad Bourat et Guy Davidi partaient favoris après sa nomination aux Oscars 2013, une belle surprise pour Malik Aïtaoudia. 12 autres documentaires ont été primés lors de la cérémonie de clôture le 22 juin. Si vous avez manqué le rendez-vous, une séance de rattrapage est prévue début septembre avec la projection en intégralité des films à l'Alcazar. De quoi patienter jusqu'à l'année prochaine.